présent.
Le charme de ville de province.
Est-ce que ça vous gêne si je mets la radio, la musique? Ah, super cool.
88.3 FM.
Explique-moi, je peux pas vous laisser 5 minutes tout seul, hein?
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Salut les étudiantes, les étudiants et autres auditeurices, c'est Na de Radio Campus Clermont-Ferrand. J'espère que vous êtes prêts à faire transpirer vos neurones. Aujourd'hui, dans Univox, on va réfléchir autour du thème du sport. Alors, j'imagine que vous avez entendu parler des JO de Paris 2024. Sinon, eh bien, je suis ravie que ma voix soit la première chose que vous entendiez à la sortie de votre coma de 2 ans. Si vous voulez rattraper votre retard sur l'actualité, n'hésitez pas à passer un coup de fil à Guillaume Meurice, il a plus que ça à faire. Bon. C'est vrai que les JO, en ce moment, c'est dur de passer à côté. Et quand on parle de compétition sportive, on pense tout de suite à 2 choses. Nelson Montfort, déjà, et les valeurs du sport. Et les politiques et athlètes du milieu ont tous leur petite liste de valeurs en tête, prêtes à être déballées pour défendre les bienfaits du sport. Écoutez.
Il existe plusieurs valeurs dans le sport. Pour moi, au départ, le sport, c'est un vecteur de socialisation, d'intégration. Il doit se faire pour tout le monde.
Ce sont bien sûr des valeurs de convivialité, des valeurs d'insertion, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs aussi qui nous permettent de lutter contre nos propres préjugés.
Vous êtes gamin, poussez la porte d'un club. Vous avez accès à des valeurs que vous comprenez, apprenez et gravez dans vous-même simplement en pratiquant. Simplement, on vous étalonnant.
Avec le sport, plus on le partage, plus on en a. C'est comme la flamme olympique. Une flamme ne perd rien de son éclat quand elle en allume une autre.
Et voilà, vous venez d'entendre Tony Estanguet, champion olympique et co-président de la délégation Paris 2024, et plein d'autres politiciens du sport, en vrac Sébastien Trinel, Cécile Saint-Marc et David Douillet, ex-ministre des Sports. Et vu comme ça, le sport, ça a l'air génial. C'est le remède à tous nos maux. Si les valeurs du sport et des JO sont intrinsèques, ça voudrait dire qu'elles se développent toutes seules, comme ça, dès qu'on pratique. On devient respectueux, courageux. Vous savez, comme si faire du handball donnait soudain envie à votre coloc de descendre les poubelles et de faire sa part de ménage. Bon, évidemment, ça marche pas comme ça. Alors, clarifions un petit peu ce qu'est une valeur. Dictionnaire.
Les valeurs sont des principes valorisés dans une société. Elles sont liées au groupe social et peuvent différer d'un groupe à un autre. Les valeurs évoluent également avec le temps.
Ah mais voilà, tout devient plus logique quand on voit les valeurs comme des choses qui évoluent et qui sont apportées par la société dans le champ sportif, et pas l'inverse. D'ailleurs, depuis la rénovation des Jeux en 1896, les valeurs portées par le CEO ont beaucoup changé. Avant, le sport, c'était quelque chose pour se préparer à la guerre, à l'affrontement. Allez, tenez, pour éclaircir tout ça, un petit cours accéléré et grossier d'histoire du sport.
Au début du 19e siècle, suite à la défaite de la France contre la Prusse, l'activité physique a pour finalité de préparer les corps à la guerre pour prendre la revanche. C'est une école militaire, l'école de Joinville, qui forme la plupart des moniteurs de gymnastique pour l'armée, mais aussi pour l'école. Après la Première Guerre mondiale, viennent s'ajouter des enjeux hygiénistes pour essayer de redresser les corps chétifs après 4 ans de privation. Les bourgeois, eux, s'inspirent des Anglais qui, au XIXe siècle, commencent à développer le sport dans les grandes écoles pour former les classes dirigeantes. Le terrain sportif est un endroit où l'on prend des décisions, où on s'approprie les règles et leurs intérêts. Cela va permettre de développer l'esprit d'initiative ou self-government, comme le disent nos amis anglo-saxons. C'est ce sport anglais que le baron Pierre de Coubertin veut développer avec les Jeux. Un sport réservé aux hautes classes de la société qui exclut les femmes et le prolétariat.
Ah, c'est pas ça qu'on vous apprend sur Coubertin, hein, d'habitude. C'est plus vraiment d'actualité. Puis heureusement que ça a changé d'ailleurs. Aujourd'hui, sur le site des JO 2024, on peut lire... Chercheurs, enseignants, parents, Tous s'accordent sur les vertus éducatives et pédagogiques du sport. Pour transmettre des valeurs de respect, de tolérance et de coopération, réunir des jeunes sur un terrain de sport est bien souvent plus puissant que tenir un discours théorique. Et là encore, dire que tout le monde est d'accord, c'est un petit peu s'avancer. Parce que même si les critiques du sport se font rares, eh bien il y a des chercheurs comme Jean-Marie Broome qui aiment à révéler les craquelures sur la couverture dorée du mythe sportif.
Vous allez entendre parler des valeurs, solidarité, humanité, effort et que sais-je encore. Or, le sport précisément est un ensemble d'anti-valeurs. Non seulement le sport ne contribue pas à la solidarité, mais au contraire, il exacerbe les antinomies, il exacerbe les rivalités. Donc la logique compétitive est telle que les groupes ne peuvent pas ne pas s'affronter. Donc la logique sportive est perverse, parce que la compétition, elle affronte, elle oppose, elle divise les gens entre eux.
Et voilà, Monsieur Broome soulève ici le paradoxe qui me titille depuis longtemps et sur lequel j'ai envie de réfléchir aujourd'hui avec vous. Parmi toutes les valeurs qu'on aime associer à la pratique sportive, il y en a une qui revient de plus en plus et qui me semble complètement incohérente et paradoxale avec le principe même du sport de compétition. Et cette valeur, c'est l'inclusion. Bah oui, l'inclusion veut rassembler tout le monde sans hiérarchie, dire que la différence est la norme, alors que la compétition cherche à séparer et classer pour trouver l'élite, le vainqueur, le champion. Pourtant, parmi les engagements pour les Jeux de 2024, on a un grand paragraphe intitulé « Léguer une société plus inclusive après les Jeux ». Dans ce texte, on nous parle beaucoup d'inclusion et de solidarité dans les gradins entre les supporters. Mais qu'en est-il sur le terrain ? Le sport féminin est-il suffisamment développé ? Est-ce que les Jeux paralympiques permettent réellement l'inclusion dans le milieu du sport de compétition ? A-t-on réellement aujourd'hui un sport à la fois compétitif et inclusif ? Et est-ce possible ? Bon, avant de commencer, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Alors, on a déjà défini les valeurs un peu plus tôt. Parlons maintenant de la logique interne de la compétition. Une compétition, ça sert à départager. Mais pour qu'on ait besoin de le faire et que ce soit intéressant pour le public, bah, il faut qu'il y ait un doute sur la personne qui va gagner. Le lièvre et la tortue, c'est bien sympa, mais ça n'est qu'une fable. Et si on vous demande de faire un ultra-trail face à Kylian Jornet, bah, il n'y aura pas de suspense, de surprise, de retournement de situation possible. Et donc, pas d'émotion. Autre que le plaisir sadique de vous voir vous faire écraser. Pour garder cette illusion d'égalité sur la ligne de départ, on a donc regroupé les personnes qui ont des chances similaires de gagner en créant toutes sortes de catégories. De poids, d'âge, de sexe, de niveau. Et c'est ce système de catégories qui devrait aujourd'hui permettre d'avoir des compétitions inclusives et intéressantes. Enfin, en général, hein. Après, bien sûr, si le match de curling de votre petite nièce vous procure autant d'émotions qu'un documentaire sur la langouste du Cap, c'est normal, c'est un autre problème. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, vous vous doutez bien que si j'ai écrit toute cette jolie introduction sur le système actuel, bah c'est pas pour l'encenser, mais plutôt pour parler de ses failles. Alors j'ai sélectionné trois problèmes principaux à développer avec vous aujourd'hui.
Univox. Univox.
Les critères de regroupement. Un des critères qui fait le plus parler de lui ces derniers temps, c'est celui du sexe, après l'arrivée en 2021 des premières athlètes transgenres aux JO.
Faut-il interdire les compétitions sportives aux personnes transgenres ? Qu'en pense la population ?
Transgenre dans les compétitions sportives, la nouvelle querelle des militantes féministes.
Les deux questions majeures qui vont traverser, à mon avis, nos interventions vont être l'équité, l'avantage physique, et où, car c'est finalement très lié, ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir au sein des compétitions sportives.
Les défenseurs de la séparation sexuée homme-femme mettent en avant un grand nombre de critères pour se justifier. La taille, la masse musculaire, la structure osseuse. La plupart de ces différences biologiques s'expliquent en partie par le taux plus faible de testostérone observé chez les personnes nées dans un corps féminin, ou AFAB, Assigned Female at Birth, assigné femme à la naissance. Et c'est donc ce taux de testostérone qui est devenu le nouveau critère pour accepter des personnes dans la catégorie féminine. Voici un extrait d'un reportage sur ce sujet avec Lucille Palaisi, spécialiste de la question de l'intégration des sportifs transgenres dans le haut niveau.
En 2003, considérant le sport comme un droit fondamental, le Comité international olympique a autorisé les personnes transgenres à participer aux compétitions féminines, à condition notamment de limiter leur taux de testostérone. Or, cette hormone varie également chez les personnes cisgenres. Pour Lucie Palesi, la mesure de la testostérone relève donc d'une vision binaire du sport.
Donc il y a des hommes qui ont des taux de testostérone très faibles, qui sont même dans la moyenne considérée féminine, et des femmes qui sont dans la moyenne considérées comme masculines. Alors évidemment, oui, c'est pas la majorité des gens, mais en fait on peut pas faire comme si ces gens n'existaient pas et partir voilà, dans un constat numérique pour en faire ensuite une norme imposée à tout le monde de « vous devez rentrer dans ces critères-là ».
Eh ben oui, surprise, les moyennes, eh bien ce sont pas des vérités absolues, ce sont juste bah, des moyennes. Et si on regarde pas l'écart type et les extrêmes, on peut passer à côté de grosses différences entre le sujet. Par exemple, il est vrai que les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes. Pourtant, je peux facilement vous citer des garçons de mon entourage qui sont beaucoup plus petits que moi. En 2020, si on regarde les courbes de croissance, si vous savez les trucs dans votre carnet de santé là sur lequel le médecin faisait des petites croix, et bien si on regarde ces courbes pour les jeunes de 18 ans, la taille normale pour un garçon, normale au sens de dans la norme, est comprise entre environ 1m60 et 1m90, et pour une fille entre 1m50 et 1m80. Ça veut dire que toute la plage 1m60, 1m80 est commune aux deux sexes. En gros, il y a beaucoup de filles et de garçons qui sont compris dans les mêmes fourchettes de taille. Et pour arriver à cette conclusion absolument renversante, j'ai utilisé des moyennes. Je vous apprends rien, hein, beaucoup de choses dépendent de comment on veut bien lire les statistiques. Tiens d'ailleurs, en parlant de statistiques, revenons à notre extrait avec cette fois la voix du professeur Jacques Balthazar, biologiste spécialisé en neuro-endocrinologie.
Au JO de Tokyo, deux sportives namibiennes, Christine Boma et Béatrice Masilingi, n'ont pas pu participer aux 400 mètres car leur taux de testostérone était trop élevé. Ce taux est en effet plus important chez les personnes intersexes, aussi dites hyperandrogènes. Afin de pouvoir participer, ces athlètes doivent elles aussi prendre un traitement pour diminuer leur taux de testostérone.
Je pense que obliger des femmes à prendre des bloqueurs de testostérone est quelque part contre l'éthique médicale. D'ailleurs, il n'y a aucun médecin qui accepterait de faire la prescription, mais il y a des médecins du sport qui sont souvent à la limite de l'éthique et parfois largement au-delà.
Et oui, il y aurait entre 1,7 et 4% de personnes intersexes dans le monde. Et être intersexe, ça n'est pas une question de genre comme pour les personnes trans, mais bien de biologie. Allez, ça faisait longtemps. Dictionnaire !
Le terme intersexuation est un terme générique utilisé pour couvrir un vaste groupe de personnes dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux normes typiques et binaires masculines ou féminines. Ces caractéristiques peuvent concerner des caractéristiques sexuelles primaires, telles que les organes génitaux internes ou externes, les systèmes reproductifs, les niveaux d'hormones et les chromosomes sexuels, ou des caractéristiques sexuelles secondaires qui apparaissent à la puberté.
Les personnes intersexes sont souvent AFAB, assignées femmes à la naissance, mais ont un taux de testostérone parfois plus élevé, sont plus grandes, bref, ne rentrent pas dans les cases ou les catégories actuelles. Et si aujourd'hui je n'ai pas de solution miracle pour résoudre le dilemme des personnes transgenres dans le sport, mais je pense que ce débat met en lumière un problème beaucoup plus profond. À quel point nos catégories sont-elles justes? Peuvent-elles même l'être? Peuvent-elles réellement représenter et intégrer tout le monde? Finalement, les personnes qui critiquent l'intégration des athlètes transgenres défendent-elles vraiment l'égalité ou s'accrochent-elles aux traditions pour rester dans le déni de leur faiblesse actuelle? En effet, les catégories qu'on utilise aujourd'hui sont loin d'être égalitaires pour tout le monde. Eh ben, on s'en accommode, on le sait très bien, puisqu'on le verbalise. On dit bien que tel type de morphologie est plus avantageux pour tel sport. Par exemple, au judo, les personnes aux jambes courtes et donc avec un centre de gravité plus bas sont favorisées. Mais pourtant, on ne fait pas de catégorie en fonction du rapport tronc-jambe. En fait, il y a tellement de critères en jeu qu'il serait impossible de faire des catégories véritablement équitables pour tous.
Et maintenant, dans la catégorie U18, testo 0,5 nanomol, moins d'1m70, poids canari, coupe au carré, et c'est faire un U avec sa langue, j'accueille Sacha Carrel.
Non, non, ça a plus de sens. Et on retombe au paradoxe du début. On cherche à départager des personnes pour savoir qui est la meilleure, et en même temps, pour ça, on essaye de faire en sorte que personne ne soit avantagé. Sauf que celle qui gagne, là, forcément, était à un moment, sinon elle aurait pas gagné. En fait, gommer toutes les inégalités, c'est faire disparaître la compétition. Donc non, on ne peut pas faire des catégories parfaites. Mais après, savoir que la perfection est impossible, ça ne nous empêche pas d'essayer de nous améliorer. Hein. Roger, pilier cinquantenaire à l'Union sportive uccelloise, sait qu'il ne sera pas le prochain Sébastien Chabal. Et pourtant, il continue à s'entraîner sous la pluie pour son match contre l'amicale sportive bortoise le week-end prochain. Soyez comme Roger.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
You to heed the word of a God who has never spoken, to fear breaking the law when it's already broken, that to feel is to be weak, to suppress emotion, so no one sees you at a heart till your chest is open. They got you hating who you are, to sell you pills and fiction, reaching for the stars when you were born up there with them, addicted to the news, views, superstitions, to keep the visionaries glued to their televisions. They want you busy stepping to the right side of history, to keep you from the inside of history. Give everyone a voice, but leash them with the mic cord, feed you things to fight about instead of things to fight for, teach you everything you want, but nothing you need. That everything's got a price and nothing is free. They'll turn everything to nothing, then make you believe that everything is under control and there's nothing to see. No more lessons, please take me back to zero. No more teachers, no more prophets, no more heroes. No more lessons, please, now I see the question to all answers will only bring me to my knees and back to zero.
La hiérarchisation et le sport-spectacle. Pour cette deuxième partie, je vais continuer un petit peu avec l'exemple de Roger. Son match de samedi ne sera probablement pas diffusé sur les chaînes de télévision. D'ailleurs, il y a peu de chances qu'il soit même filmé. Et pour s'y rendre, il va prendre le véhicule familial ou covoiturer avec Philippe, son voisin aussi dans l'équipe. Roger ne sera pas payé. Alors, toute cette situation ne vous choque sûrement pas, car Roger n'est pas un sportif professionnel. Son équipe évolue en Fédéral 3. En fait, en raison de son niveau, Roger ne fait pas partie d'une catégorie sportive valorisée. Parce que oui, et là je continue à enfoncer des portes ouvertes, il y a des catégories plus mises en avant que d'autres. Allez, je crois que c'est le moment de refaire un petit point histoire.
Dans les années 80, le sport commence à être retransmis à la télévision régulièrement. De plus en plus médiatique, il attire les acteurs économiques qui s'emparent de ce nouveau marché, et de partenariat en sponsoring, dans les années 90, il devient le sport spectacle que l'on connaît aujourd'hui, avec ses événements grandioses et coûteux et ses jolis maillots recouverts de publicités bariolées.
Pour s'en mettre plein les poches grâce au sport, il faut de la visibilité et donc des champions. Les investisseurs vont donc logiquement mettre de l'argent dans les sports et les catégories les plus populaires. Cet argent va permettre à celle-ci d'être encore plus médiatisée, de mieux s'entraîner. Le ruissellement dans les clubs va augmenter le nombre de pratiquants et la qualité de leur entraînement, ce qui permet de trouver de plus en plus d'athlètes, toujours plus performants. Donc d'attirer les acteurs économiques, ce qui augmente la popularité de la pratique, ce qui attire l'argent, etc., etc. Vous avez compris l'idée, c'est un système autoreproducteur. Puis bon, il faudrait quand même pas gaspiller des pétrodollars pour des filles ou des tétraplégiques sous prétexte que...
La loi favorise un accès égal aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques, ou tout autre statut.
Loi numéro 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.
On aura donc des Coupes du Monde de football masculine et féminine séparées, des Jeux Olympiques et Paralympiques qui ne se passent pas en même temps et qui n'ont absolument pas le même budget. Bref, la conséquence du financement préférentiel des sports collectifs pratiqués par des hommes valides, c'est l'exclusion du monde du haut niveau par manque de moyens, des personnes en situation de handicap, des femmes, de certaines fédérations, etc., etc. Lou Barin, skieuse de niveau mondial. Les garçons galèrent plus au début à trouver des sponsors parce qu'ils sont plus nombreux. Une fille aura facilement 2-3 trucs, une paire de skis, etc. Mais dès qu'ils sont en Coupe du Monde, ça va plus vite au niveau des contrats. Pour les filles, avoir un contrat avec une entreprise qui finance vraiment la saison et fait pas qu'offrir du matériel, c'est vraiment compliqué. Bon, normalement, c'est là que j'entends quelqu'un dire «
Quand même, t'exagères, maintenant, dans les campagnes de pub pour les JO, on voit des femmes et des gens en fauteuil. »
Certes, c'est un progrès au niveau de la représentation, et c'est très important. Mais c'est encore aujourd'hui du sponsoring d'image. En fait, on le fait pour dire « Et regardez, applaudissez-nous, on est gentils, on les accueille. » Et pas juste parce qu'ils sont des athlètes. D'ailleurs, on ne les qualifie pas comme tels. On dit « athlètes féminines » ou « para-athlètes » parce qu'ils sont toujours vus comme une catégorie à part. Alors, je parle principalement ici du haut niveau depuis tout à l'heure. Mais justement parce que la représentation dans celui-ci et l'argent qu'il permet d'obtenir vont conditionner aussi les pratiques compétitives non professionnelles. Peu de gens suivent les compétitions sportives des personnes en situation de handicap. Il y a donc peu d'argent et des fédérations moindres. Pareil, le fait de ne pas mettre en avant les équipes féminines de sport collectif fait que les filles sont moins nombreuses à pratiquer ces activités, moins encouragées à le faire, et du coup qu'il y en a moins derrière aussi. Heureusement, en France, depuis 1975 et la loi Mazo, les fédérations sportives sont reconnues de service public et reçoivent des subventions qui permettent de contrebalancer un petit peu cet effet. Il y a aussi des sports peu médiatisés, mais très pratiqués, qui sont moins esclaves du marché et qui s'adaptent donc mieux. Ou on peut aussi prendre l'exemple de l'athlétisme. Les compétitions féminines et masculines se déroulant dans un même stade au même moment, avec des épreuves qui se chevauchent, les spectateurs payent leur place pour voir tout le monde et les primes données aux athlètes sont donc les mêmes pour tous. Et mais c'est vrai que faire des compétitions avec toutes les catégories en même temps, c'est plutôt malin pour que tout le monde pratique ensemble finalement, non ? Parce que bon, créer des espaces pour que chacun puisse être épanoui, bah c'est pas mal. Mais dresser des barricades entre chacun de ces espaces et ne donner de la nourriture et de la lumière qu'à certains, ça met tout de suite une petite ambiance Varsovie au début des années 40, si vous voyez ce que je veux dire. Et ghettoisation, ça va rarement bien avec inclusion. Intégration et inclusion.
Univox.
Dictionnaire, un petit rappel s'il te plaît.
Dans une société inclusive, la différence est la norme. Le but est que tout soit fait pour que tous aient la même chance qu'importe leur particularité. L'intégration, elle, veut aider un groupe considéré comme anormal à avoir les mêmes chances que le groupe normal. Il y a donc une distinction entre les deux groupes.
Ceci étant dit, voilà la question à 1 million de dollars. Est-ce que classer les gens en catégories, c'est de l'inclusion ou de l'intégration ? Eh oui, bravo, c'est de l'intégration ! Est-ce que je suis en train de dire que je pérore depuis 20 minutes alors que dès le début j'aurais pu affirmer que non, aujourd'hui le sport de compétition n'est pas inclusif ? Peut-être. Mais en vérité, bon, l'intégration, c'est un premier pas intéressant vers l'inclusion. Parce que vouloir tout d'un coup mettre tout le monde ensemble sous prétexte d'inclusion, ça fonctionne pas. Traverser la rue pour trouver du travail quand on n'a pas de jambes, si on nous donne pas de fauteuil, c'est un peu laborieux. Comme je le disais tout à l'heure, séparer les personnes permet aussi de créer des espaces safe pour que celles-ci puissent s'exprimer et progresser avant d'être confrontées aux autres. Il me semble évident qu'on ne va pas mettre des poussins face à des seniors du top 14 dans un match de rugby sans adaptation, comme par exemple interdire de plaquer pour ne pas se retrouver avec des moments crêpes. Les pratiques en non-mixité ou en mixité choisie permettent aux minorités de ne pas se retrouver en situation de dominant-dominé face à un groupe qui impose son opinion et du coup vont pouvoir ainsi reprendre confiance et devenir plus autonomes par la suite. Pour aller plus loin aujourd'hui, on pourrait imaginer une forme de compétition hybride entre intégration et inclusion avec, par exemple, une course où tout le monde court ensemble et à la fin il y a un classement général et un classement en fonction des catégories. Enfin, comme les marathons en fait, c'est déjà un peu ce qui se passe. Et puis en fait, il existe aussi déjà des pratiques inclusives aujourd'hui, si on regarde un petit peu plus loin que le sport de haut niveau et le sport fédéral classique.
Univox. Univox.
Aujourd'hui, on est avec Benoît, qui est un pratiquant de sport aguerri et qui a vécu quelques expériences de sport inclusif. Il a eu cette chance.
Eh ben oui, c'était à l'occasion d'un festival de musique qui s'appelle Camboros dans les Combrailles. En fait, il y a un match de foot qui est organisé, voilà, c'est l'idée que tout le monde peut venir jouer au foot. C'est sur un grand terrain à 11, hein, voilà, classique quoi. Et vraiment, tout le monde peut venir, de tous les âges, toutes les tailles, tous les genres, etc. Et en fait, au bout d'un petit moment du match, il y a un type, il s'est mis au milieu du stade, il a pris le ballon, il a dit, enfin, je ne me rappelle plus s'il a pris le ballon, mais il a dit, hop, attendez, il y a un truc qui ne va pas. Et on lui a dit, bah oui, vas-y, dis. Il dit, bah, y a un truc, c'est que on voit bien quand même que les plus petits, et notamment les enfants, galèrent à garder un peu le ballon, quoi. Donc je propose de rajouter une règle, comme ça, en plein milieu, c'est que maintenant, quand les enfants, enfin, quand un enfant ou une enfant a le ballon, les adultes peuvent pas lui prendre le ballon. Et ah du oui. coup, bah, le gosse ou la gosse, du coup, peut faire des dribbles, faire des passes, tirer, tout ce qui, voilà. Mais tant que la personne, tant que l'enfant a pas perdu le ballon, bah, les adultes, peuvent pas lui prendre et même doivent l'éviter, quoi. Voilà.
Et est-ce que ça a bien marché?
Bah, ça a très bien marché, ça a carrément. Enfin, de mon point de vue, ça a vraiment très bien marché parce qu'on vraiment on a vu la différence sur la répartition du temps de ballon, pour dire comme ça.
Ouais.
Ah oui, ça a carrément changé les choses, ouais. Ouais, carrément.
Oui, puis j'imagine que la compétition était plus intéressante et tout le monde arrivait à participer quand même en même temps.
Bah ouais, carrément. Et puis vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce gars-là qui avait dû y réfléchir un peu avant. Et moi, j'ai trouvé ça super, en fait, qu'il se permette de dire « Attendez, ça va pas, il y a un truc qui va pas, là. » Et que tout le monde dise « Ok, c'est super, et c'est parti, quoi. »
Et est-ce qu'il y a eu d'autres adaptations derrière où c'était la seule qui s'est mise en place? Est-ce qu'il y avait... Des personnes en situation de handicap, peut-être
En tout cas, pas visible. Parce que moi, je travaille un peu sur les questions de handicap et l'immense majorité n'est pas visible. Après, il y avait aussi, de manière un peu générale, au début du match, aussi un peu dans le brief, entre guillemets, c'était genre, on fait un match, il y a deux équipes, mais l'important, c'est qu'on s'amuse, c'est de jouer au foot et qu'on se fasse plaisir, etc. Et je pense que s'il y avait, ça c'est une hypothèse, s'il y avait eu des problématiques de type... question de validisme, quoi.
Oui.
Je pense qu'il y aurait eu des choses qui auraient été proposées. Bon, voilà. Là, en l'occurrence, début, c'était plutôt avec les petits et les grands.
Tout à l'heure, tu me parlais d'une association qui a déjà eu des pistes de réflexion dans ce sujet.
Carrément. Bah, ça, c'était une autre expérience il y a quelques années, il y a 8 ans, à l'occasion d'une formation autour de l'Euro 2016 là, de foot masculin à l'époque. On mettait en œuvre une formation et on travaillait sur les questions d'inclusion dans le sport et notamment dans le foot. Et à partir de ce que fabrique une structure qui s'appelle Tatane, alors pour les gens de mon âge, entre guillemets, c'était l'ancien joueur de foot Vikash Dorasso qui avait créé ça avec d'autres. L'idée, c'était de dire que le foot, c'est, ça peut être un truc chouette, quoi. C'est pas que les questions d'argent, de masculinité, de machin, de compète à fond. Ça peut être aussi un truc rigolo et drôle et épanouissant. Et du coup, il y a tout un bouquin, et il y a un site internet, j'ai regardé tout à l'heure, où il y a aussi il y a des propositions de règles où pendant un match de foot, bah, tu mets en place des règles pour justement travailler sur les questions d'inclusion.
Du coup, je suis direct allée voir sur le site de Tatane. Il y a deux livres qui sont sortis, Pour un football durable et joyeux et 50 idées joyeuses pour changer le foot. Mais ils font aussi des ateliers, événements dans toute la France et des podcasts. Alors n'hésitez pas à aller vous renseigner si vous aussi vous voulez réinventer le sport de demain. Je vous recommande aussi d'aller écouter des conférences de Jean-Marie Brôme, sociologue qui a développé une théorie critique du sport, ou de Anaïs Buon, socio-historienne du corps, du sport et du genre, entre autres spécialisée dans les contrôles de genre dans les compétitions sportives. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'existe pas de moyen vraiment efficace de concilier le sport de haut niveau avec l'inclusion. La compétition est intéressante pour progresser, mais si elle ne concerne pas tout le monde, eh ben cet intérêt, il est perdu. Parce que, et attention, je vais dire une phrase digne d'une morale de fin de film d'animation, parce qu'on est plus forts tous ensemble. Des milliers ont déjà avancé dans ce domaine. Il existe beaucoup de jeux coopératifs, que ce soit des jeux de société ou des jeux éducatifs, qui permettent d'avoir toujours une compétition, mais contre un élément extérieur, au lieu d'être les uns contre les autres. Et peut-être que vous aussi vous connaissez des solutions ou vous avez des idées, et tant mieux. Parce que mon but dans cette émission, c'était de faire avec vous un état des lieux du modèle actuel pour au minimum vous permettre de faire un petit pas de côté et au mieux, qui sait, faire naître progressivement dans votre esprit des solutions pour aller vers un autre modèle de compétition sportive, cette fois-ci véritablement inclusive.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.